first sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Son. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Excusez-moi pour ce petit bug au niveau du top horaire, j'ai eu un problème de son et de retour. Ça va aller mieux maintenant. J'ai tout de suite présenté les acteurs qui vont me se joindre à moi durant cette émission. Pardon, je suis un peu perturbé de pas avoir mon retour son. Et avec d'abord à ma gauche Alex. Salut Alex.
Salut Faustin. J'espère que ça va bien de ton côté, même si t'as l'air un peu tendu.
Ouais, c'est
parce qu'il y a un match en jeu qui se joue en ce moment, c'est pour ça que il y a un peu de stress, mais ça va le faire, t'inquiète pas.
Voilà, et avec moi aussi Paulin. Salut Paulin.
Salut Faustin, bonsoir à tous. Exactement, on a un gros match en jeu là avec l'UFAB qui est en train de jouer actuellement.
Voilà, et on va tout de suite se lancer dans ce match de l'UFAB. Il reste 6 minutes 30 environ à jouer. Pour l'instant, elle perd de 46 à 42. C'est donc le quart de finale retour de Wonder League, Boulangère Wonder League. Voilà, sachant que l'UFAB a gagné le match aller.
Ouais.
Alex, tu y étais?
Ouais, je peux en parler un petit peu pendant que ça va se terminer. Match réussi totalement de la part des Angevines. Elles ont bien réussi à pas couler dès le début parce qu'il y a eu un gros temps fort vraiment dès l'entame de match de Charnay. Qui a fait une prestation donc solide dès le premier quart-temps, et en fait petit à petit Angers s'est montré supérieur, beaucoup plus de réussite, et c'est vraiment en seconde mi-temps qu'on a vraiment vu non seulement Charnay clairement ne plus réussir du tout ses tirs et ses lancers, tandis que tout réussissait du côté de l'UFAB. Vraie bonne ambiance, même si cette année je pense que Jambon a connu un peu mieux.
Ouais.
C'était pas rempli. Moi, je me souviens du coup d'un match à contre Basketland où là vraiment c'était guichet presque fermé. Et là, pour le coup, c'était un peu parsemé, mais c'était normal puisque l'horaire c'était le jeudi à 18h45, donc ouais, forcément ouais. Les gens, même s'il y a les vacances scolaires, les gens forcément étaient pas présents.
Peut-être partis même en vacances.
C'est ça, voilà. Et non, vraiment match hyper satisfaisant de la part d'Angers. À noter quand même que je pense qu'elles avaient la place pour vraiment boucler la double position, surtout en fin de match où elles ont plusieurs fois la possession pour être à plus 17 ou plus 18. Et finalement ça fait plus 11, donc ça reste quand même un avantage prépondérant puisque là actuellement elles ont 5 points d'avance et il reste 5 minutes. Mais voilà, je pense que vous êtes mieux placés que moi, Paulin et Faustin, pour savoir qu'au basket ça va très très vite et que actuellement les Angevines ne sont pas forcément à l'abri. Et donc à noter que si Angers se qualifie ce soir, ce sera soit face à Basketland, et j'ai pas le nom de l'autre équipe, mais Basketland a déjà remporté le match aller, donc voilà.
Je crois que c'est Tarbes.
Ouais, c'est pas... Tarbes, c'est pas Bourges. Je crois que c'est Bourges.
Ah ouais.
Il faudra que j'aille voir. Mais en tout cas, il y a des chances pour que ça soit à Basketland. Donc voilà, un petit
duel.
Gros duel, il y aura Max qui sera sûrement sur place puisqu'il habite à Mont-de-Marsan.
On le salue.
À la fameuse salle François Mitterrand qui fait beaucoup de bruit et oui. C'est vraiment pour le coup un vrai chaudron. Là, on voit les images de Charnay, c'est vraiment une salle un peu pittoresque qui est dans son jus et qui ressemble à ce qu'on peut voir dans le niveau amateur, parce qu'on rappelle que c'est quand même une équipe qui s'est construite d'année en année et qui n'était pas forcément faite pour terminer troisième de la saison régulière, parce qu'on rappelle que ce sont les troisièmes de la saison régulière qui affrontent les Angevines. Donc c'est quand même une sacrée perf, et c'est un petit peu voilà, il peut y avoir des exemples comme Luznac dans le foot, ou peut-être Limoges ou Handball récemment, même si c'est plus une grosse ville. Mais voilà, des clubs qui viennent un peu de nulle part et qui viennent truster les premières places du championnat de France. Et là, on a une belle opposition. Et surtout, ce qui est important à dire aussi sur la confrontation, c'est que les Angevines n'ont pas eu peur de Charnay. Je pense que c'était la mentalité à avoir.
Ouais.
Je pense qu'elles ont quand même eu de la chance de tomber un peu sur la surprise du haut tableau, parce que ça aurait été peut-être voilà Bourges, Basketland, Villeneuve-d'Ascq, des choses comme ça. Ça aurait été, je pense, différent. Il y aurait peut-être eu ce sentiment de partir avec, tu vois, un sentiment d'être un peu outsider. Là, vraiment, je trouve qu'il y avait vraiment la place, et c'est très satisfaisant de voir qu'elles ont pris cette possibilité d'être de passer ce tour. Et c'est historique évidemment pour le club qu'on a suivi les années précédentes, et bah c'est trop bien pour elles, quoi.
Ça, c'est déjà historique d'avoir gagné un match en play-off, et ça le serait encore plus de se qualifier pour les demi-finales. Là, pour l'instant, il y a temps mort, il reste 5 minutes 16 à jouer, 47 à 42 pour Charnay. On va continuer de suivre la fin du match et l'avancée du score avant de se lancer dans le reste des actualités. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, avant d'aller dans les actualités locales.
Oui.
Voilà, on parlera notamment du SCO Foot qui a perdu ce week-end, du SCO Handball qui étonnamment a gagné week-end.
C'est rare pour le signaler. Oui,
et on fera un point aussi sur le SCO Rugby qui va jouer ce week-end le 32e de finale aller de Fédéral 3.
C'est ce week-end du coup.
Ouais, c'est ce week-end. Okay. C'est dimanche à 15h contre Cannes à Cannes. Bah voilà, j'ai tout dit.
Donc,
en fait.
Il y a un gros, ouais, il y a un gros déplacement quand même. Mmh.
Bah
ça,
ouais,
ça va pas être simple.
Il y a la place, j'ai envie de dire.
Il y a la place.
Il y a la place, comme Angers et l'UFAB à la place ce soir. Le jeu a repris. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, le match est sur évidemment Sport en France.
Sport en France, oui,
si
tout
vous voulez
fait,
avoir voilà. Les images en plus de nos commentaires.
Exactement. Il faut couper le son de la télé.
Voilà, n'éteignez pas le poste de radio. Restez sur Génération.
Et vous nous écoutez en train de commenter. Mais ouais, 47-42 actuellement pour Charnay. Donc voilà, toujours Angers à portée de tir, pour au moins aller chercher une prolongation du côté de Charnay. Et c'est vrai que peut-être que Charnay aura l'avantage si y a prolongation, si ça s'emballe. Donc la fin de match peut être assez folle. Justement, le but aussi d'Angers, c'est de contrecarrer tout de suite les plans de Charnay et d'aller chercher pourquoi pas rapidement des 3 points ou des 2 points pour
ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début du match, Charnay n'est pas très adroit, que ce soit à 3 points ou ça avant danger, et même proche du panier avec des lay-ups simples qui n'ont pas été marqués
comme à l'aller finalement.
Voilà.
Franchement, comme à l'aller, Charnay, c'était assez j'étais assez surpris de voir que c'était 3e de Wonder League sur le parquet, parce que vraiment ça ne voulait pas, mais on sentait que physiquement et dans le jeu, c'était vraiment une équipe qui pouvait. Je comprends pourquoi elles sont au-dessus d'Angers sur le papier.
Ouais.
Maintenant, elles ont vraiment rien réussi. Bon, voilà. Après, c'est le lot du basket. Hein. On peut être très fort sur le terrain et rater tous ses tirs. À un moment donné, c'est comme ça. Et là, c'est vrai que ça continue, parce que c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais même pour du basket féminin, 47-42, c'est quand même très peu dans le quatrième quart-temps. Il reste 4 minutes seulement.
Ouais, c'est très faible. Et faut savoir qu'à la mi-temps, il y avait 25-24 seulement, parce que dans le deuxième quart-temps, il y a eu que 9-7. 9-7 pour l'UFAB. Donc vraiment très serré. Et Charnay, elles finissent la mi-temps, elles sont à 7 sur 33 au tir sur leur première mi-temps.
Ah oui.
Donc, c'est un pourcentage, on va dire, au tir, c'est catastrophique. Ça les aide pas forcément. Je pense que Angers, elles se sont bien adaptées défensivement. Et en fait, les shoots qu'elles ont laissés ouverts aux joueuses de Charnay, elles les ont pas mises. Donc, tant mieux pour l'UFAB. Là, à l'heure où on parle, il reste 3-30, 47-42. Donc, l'UFAB encore en bonne position. Gros 3 points, là, de
50 à 42.
De Makani.
Et le temps mort qui est tout de suite, qui est tout de suite sifflé en faveur, j'imagine, d'Angers, pour un peu couper la dynamique de Charnay. Mais oui, c'est vrai que là, du coup, ça se rapproche. On n'est plus qu'à 8 points.
Il va falloir une grosse défense.
Ça va être tendu jusqu'au bout.
Il faut que le temps mort, là, la coach de l'UFAB, il faut qu'elle soit. En plus, on la connaît pour être assez dure des fois avec ses joueuses. Donc,
un style très défensif. Ça, de toute façon, la coach, on l'a reçue plein de fois dans l'émission et elle a toujours mis en avant cette comment ?
L'a reçue plein de fois.
Plein de fois, si quand même.
Aurélie Bonneau, on l'a reçue plusieurs fois.
Bah, je suis allé l'interviewer il y a quelques temps. Ah oui. Après, elle est venue une ou deux fois et puis après, on est venu à une conférence de presse.
Ok.
Donc elle nous reconnaissait, je sais pas. mais oui, c'est vrai que voilà, elle a toujours axé sur le côté jeu et puis évidemment bon, c'est un personnage haut en couleur, mais surtout voilà, elle a axé sur la défense. Ouais. Et moi, j'ai trouvé notamment, alors peut-être que je digresse un peu, mais dans le style de Leïla Lacan, ça s'est vu notamment au JO, je trouve, où ouais. Leïla Lacan était impressionnante en défense. Et honnêtement, voilà, c'était quelque chose à mon avis qui a été inculqué par Aurélie Bonan, même si elle avait avant été au Centre fédéral. Mais voilà, on sent que c'est les valeurs qu'elle incarne. Et aujourd'hui, s'il y a que 50 points pour Charnay, c'est à mon avis pour une raison.
Ce que j'allais dire, moi, de ce qu'on voit du match, je vois vraiment des Angevines très très agressives en défense, qui coupent toutes les lignes de passe, qui vont trapper sur le porteur du ballon en sortie d'écran, ce genre de choses. Et c'est ça qui empêche aussi d'avoir des paniers faciles. On a vu plusieurs paniers se prendre en toute fin de possession et des shoots très difficiles pour les joueuses de Charnay, qui font qu'elles ont ce pourcentage au shoot pendant ce match. Donc c'est pas que de la chance, j'ai envie de dire, c'est aussi provoqué par la défense angevine. Alors que du côté de Charnay, en plus, il me semblait qu'en première mi-temps, et maintenant là, je suis plus sûr.
Attention, on perd deux balles.
L'interception.
Récupération de Charnay.
C'est un panier facile là.
Et ouais. Ça termine
au fond. Voilà, c'est au fond. 52 partout. 52 à 42 plutôt.
Il n'y a plus qu'un point. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux formations. Il serait temps de marquer parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses sur forcément Angers la défense. Attention. Et
Massimo
Kaba. Massimo Kaba essaie de mettre beaucoup de pression là hein, sur les offensives de l'UFAB. Ils essayent de monter pour justement essayer de récupérer le ballon. Faut vraiment qu'elles arrivent à gérer leur fin de match là, l'UFAB.
Ouais, si le match continue à être aussi serré jusqu'à la fin, on faudrait pas être étonné de voir une presse installée par Charnay tout terrain ou demi terrain.
C'est ça. Parce que oui, donc pour revenir à ce que je disais, on disait donc de Charnay qui réussissait peu, mais là, même pour Angers, 44 points, c'est un peu peu.
Aussi, ouais.
Et peut-être que cette saison, on a perdu un peu les artilleuses qu'on avait d'habitude, comme Alexis Pettersson ou Leïla Lacan à une certaine époque. Même si, voilà, il y a des bonnes choses quand même à Angers, des choses qui sont vraiment intéressantes.
C'est quand même un nouvel effectif complètement par rapport à la saison dernière.
Oui, voilà.
On a gardé que deux joueuses qui sont Marine Ursus et Axel Merceron.
Pour les auditeurs qui découvrent un peu l'équipe, parmi les plus gros. Les plus grosses performeuses de cette équipe, on va retrouver Amerist Alston, qui est pour le coup vraiment l'une des meilleures joueuses de la ligue. Il y a également Tahan qui a fait un bon match aller, Joy Adams qui est vraiment aussi une joueuse intéressante, Massini Kaba qui elle voilà était là je crois l'année dernière et qui est revenue là à l'intersaison renforcer les rangs de l'UFAB et donc bon là, il y a un double lancé franc qui a été inscrit par Charnay, donc on revient à plus 10 pour Charnay et donc sur les doubles confrontations à plus 1 pour Angers seulement. Donc là, voilà, il reste 2 minutes 25, ça va être tendu jusqu'au bout. Et puis à noter aussi, voilà, parce que je la vois avec son numéro 0, Anna Ngo Njok, qui est également voilà une des meilleures joueuses de l'UFAB, qui est un peu la meneuse titulaire du côté d'Angers.
Ouais, qui a fait un très bon match de ce que tu as dû voir jeudi dernier.
Exactement. Et là, donc, lancé franc à venir pour elle, justement, la numéro 0 qui va essayer de ramener l'UFAB à 9 unités. Et c'est manqué pour le premier. Il y aura un deuxième.
Les supporters, évidemment, qui essayent de gêner face
au panier.
Supporters des Pimkies, là, comme ils les appellent là-bas.
Exactement.
Qui essayent de.
Et tout
le
de
deuxième,
rose.
Ouais, c'est bon.
Et le deuxième qui rentre. 54-45. Ça va être tendu jusqu'au bout, messieurs. Je pense que là, on va avoir un début d'émission assez compliqué, mais bon.
Et puis dans un match comme ça, c'est 2 minutes 15 qui peuvent durer 3 quarts d'heure
au basket. Clair. Et puis beaucoup de...
Oh là là, le gros shoot de Manaki.
Ça égalité.
Ça revient à égalité sur la double confrontation. 56 à 45 pour Charnay.
La presse qui est mise en place.
C'était
une presse.
Oh là là,
ça loupe.
C'est raté, le lay-up qui a été raté... de façon assez catastrophique.
Ok, perte de balle, récupération de la balle pour les joueuses de l'UFAB.
Il faut rester lucide, ne pas jouer trop vite, surtout face à une presse où il faut pas partir en dribble pour
pour se faire choper le ballon très tôt dans le terrain et prendre encaisser un layup facile, réussir à briser cette presse pour pouvoir attaquer sereinement pendant les 24 secondes. 24 secondes, c'est long. Va falloir faire tourner le chrono, même si maintenant l'UFAB doit aussi marquer.
C'est particulier comme match parce que du coup, comme il y a les équipes qui marquent peu, on a l'impression que celle qui va marquer va être, va faire la différence en fait.
On passe une contre-attaque du côté de Charnay.
Contre-attaque.
Qui s'arrête à deux points.
Et c'est marqué.
Charnay qui passe devant.
Ça y est. C'est pour l'instant, provisoirement, Charnay est en demi-finale. Évidemment, rien n'est terminé. Il reste 8 minutes 19. Mais ça y est. C'est psychologiquement pour les joueurs, ça doit être compliqué. Kaba
a clairement basculé. Avec la caméra qui tremble derrière de l'ambiance.
Anna qui va y aller, avec rendant la raquette, elle ressort. Il y a pas de solution, ça défend bien Charnay. Hein.
Ouais,
Tan.
À la faute là.
Peut-être faute.
Il siffle offensive là-dessus.
Aïe.
Je suis pas expert basket, mais pour le coup, c'est vrai qu'elle avait l'air de donner un petit coup de coude, coup d'épaule.
Elle y va avec l'épaule. Et là, du côté Charnay, c'est Makani qui est en train de faire un quatrième carton d'exception. Elle a enchaîné des tirs mi-distance. Tire à 3 points, c'est quelque chose. Elle est en train vraiment de faire gagner son équipe.
Ça ressemble à la catastrophe quand même là.
Moi je trouve dur cette faute offensive où on voit pas de coude qui se décolle, on voit une chose de Charnay qui est pas placée. Je suis peut-être un peu chauvin, mais
non, mais c'est vrai que sur le placement de ses appuis, c'est compliqué.
Elle est encore en l'air.
59 secondes, point 6. 58-45 pour Charnay. On rappelle que Angers dispose de 11 points d'avance. Obtenu lors du match aller à Jambouin, et là à Charnay, c'est très compliqué.
Plus de Charnay, faut défendre.
On s'en mord les doigts d'avoir loupé des paniers au match aller, de ne pas être ressorti avec plus 18 mais qu'avec plus 11.
Attention intérieur,
N1
elle est de la part de Charnay qui va encore prendre plus d'avance, et ça va être très très compliqué pour les Angers.
Exceptionnel Makani là sur la
plus
fin de match.
13. Et donc
ça fait plus 15, donc
si le lancer converti.
Ouais, plus 4, plus 5 si le lancer converti.
Là c'est compliqué. On vous ment pas, chers auditeurs. C'est compliqué. On va commencer l'émission par une désillusion. Allez. Non, c'est pas fini. Il y a 50
secondes.
Non, on
y croit évidemment. Tracy McGrady a mis 13 points en 30 secondes. Tout est possible.
Et puis il faut surtout se fier encore une fois au comment.
Elle est sacrée référence.
C'est McAdi qui met 13 points en 30 secondes.
Ah oui, d'accord.
Face aux Spurs. Enfin bref.
Je pensais que t'avais cité les 3 buts de Manchester, mais bref.
On aurait pu aussi, mais
c'est pas le moment.
J'aurais pas osé.
On parlera en deuxième partie d'émission. Là, le panier, le lancer franc est très important. Et c'est converti.
Ah, c'est terrible.
Et
Le panier n'a pas été accordé.
Donc là, on est à plus 14.
Il n'y a pas le panier.
Donc plus 3.
C'est étonnant.
Ouais, c'est étonnant.
On va essayer de rester du coup sur peut-être la base des doubles confrontations pour l'instant. Donc on serait à plus 3, donc plus 4 désormais.
Deuxième
c'est
qui a marqué
aussi. 17. 50 secondes.
Il
va y avoir beaucoup de temps mort. Et là il y en a un nouveau.
4 points de retard, faut surtout voir les deux possessions de retard, parce que une position pourrait remettre à égalité, mais là deux, c'est-à-dire qu'il faut remarquer
et là faut
faire faute derrière,
il faut défendre le fer, ça veut dire qu'il faut pas encaisser d'abord. Derrière, faut pas faire de faute. Ouais, c'est compliqué. 17-4 les gars sur le quatrième carton de Charnay.
Ouais, voilà. Non, mais
17-4,
4 points en un carton,
4 points en un carton,
c'est rédhibitoire hein, quand on veut aller en demi-finale de play-off. Ouais, vous les gars, vous avez fait du basket aussi, Paulin?
Oui.
Comment vous gérez ces fins de match, vous? Vous en avez vécu
Des fins de match compliquées, c'est arrivé. À ton niveau, bon, il y en a eu certaines, mais c'est surtout en fait déjà faut pouvoir rester concentré et faut pouvoir compter surtout. Enfin, en tout cas moi de mon expérience, je sais que je pouvais compter sur un meneur. D'ailleurs, peut-être vous connaissez, il est à l'EAB, c'est Tidiane Naham, qui des fois fait des piges avec les pros de l'EAB.
Je vois.
Et quand on était quand on jouait, on savait qu'on pouvait compter sur lui pour essayer de garder la balle, et lui il organisait le jeu. Ça veut dire que c'est lui qui allait décider soit de lâcher la balle pour qu'on puisse prendre un shoot extérieur, soit justement il allait driver, il était capable de provoquer cette faute là. Faudrait que soit il y a une joueuse, notamment, on en a parlé, Alston, elle est capable de faire ça, justement, d'aller rapporter les points pour l'UFAB. Derrière, défensivement, par contre, je pense que elle a dû en parler. La coach, il faut vraiment essayer de rester focus. Là, il y a possession pour l'UFAB. tout faire pour marquer au moins un panier, aller provoquer une faute, faire quelque chose, et après on verra. Mais
ouais, essayer de marquer vite,
c'est tendu,
c'est très tendu là.
Trop couler le chrono.
Aïe aïe aïe. Là faut tenter direct quoi.
Ah, pas direct non plus.
Grosse
mais
défense
faut...
encore. Ah, faute sifflée je crois, non?
Oui, ouais, il me semble.
Faute sifflée.
Il accroche sur le démarquage la joueuse de Charny.
Les deux équipes sont à 5 fautes, messieurs, je crois. J'ai pas
ouais, il me semble, là, les tirés en dessous, les scores, ça représente les
fautes. Ouais,
donc
ça.
Là, ça va être un duel de lancer franc, quoi.
C'est ça. Là, 49 secondes. Franchement, là, c'est bien joué, j'ai envie de dire, l'UFAB. Parce qu'en une seconde, tu récupères deux lancers francs. On espère deux points.
Faut les mettre. Important
pour venir
de
à
mettre,
une possession.
Donc, on rappelle, 60-45 actuellement. C'est Anna Ngo Njok qui va s'élancer pour ramener l'UFAB à deux unités de la qualification.
Un sur deux au lancer franc juste avant. Le premier est tiré.
Oh, il est dedans.
Et la gamelle.
Ouais. Avec un peu de réussite.
Avec un peu de réussite. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est exactement comme ça qu'on peut le dire.
Les dieux du basket sont avec nous.
Allez.
On va pas, oui. Attention, Anna, qui va tenter le deuxième. Et ça rentre. 60-47. Donc on est à plus 2 sur la double confrontation pour Charnay. Heureux, nouveau temps mort, on va pouvoir parler. Et du coup, on va peut-être aller sur toi, Faustin. Toi, est-ce que tu as déjà géré des fins de match comme ça?
Des fins de match serrées comme ça, évidemment.
Toi, c'était toi le meneur qui gardait la balle.
Comme l'aurait dit James Harden, je suis le système. Non, je rigole, évidemment. Bien au contraire.
Je subis le système, peut-être.
Voilà, c'est ça, en général, c'est... Bah moi à mon niveau c'était surtout, on n'avait pas un franchise player on va dire qui pouvait prendre la balle ISO et qui va te mettre deux points, c'était plus on essayait
surtout
de...
Surtout à Avril quoi, ouais. Enfin. Avec tout le respect que j'ai pour le club.
Non mais surtout on essayait de jouer un système qu'on connaissait,
ouais.
Qu'on savait effectuer, qui marchait et on essayait de trouver nos zones préférentielles pour avoir un bull shoot, trouver un backdoor, un layup facile, ce genre de choses.
Ça, ouais.
Donc faut jouer sur ce que tu connais, faut pas tenter le diable. Autant si t'es derrière de 6 points à 30 secondes de la fin, faut tenter un 3 points venu d'ailleurs. Mais là, à 2 points d'écart, faut rester focus et faut trouver un panier facile.
Jouer le match comme d'habitude, quoi, en gros. Ne pas surjouer pour essayer de faire n'importe quoi.
Et là, va falloir défendre le plomb, comme on dit, parce que c'est là où ça va être important pour les joueuses.
Si on peut rater un ballon, parce que là, Charnay va sûrement faire défiler le chrono, va jouer bien toute sa possession jusqu'au bout.
Grosse pression, là, de ce qu'on voit.
Voilà, c'est sur les rebonds aussi, si un shoot qui est pris.
Changement de... quoi ?
Non, c'est que ça défend très haut.
Ouais.
Ça défend très haut pour les joueuses.
Ah oui, ok.
Les joueuses de l'UFAB.
J'étais perturbé.
C'est perturbant, mais...
Ça avait tenté une combinaison de football américain, j'ai l'impression, vu l'alignement.
C'est très très serré donc les Angevines qui sont à fond, qui sont à bloc,
ouais.
Les violettes contre les roses. Charnay qui est quand même, on rappelle, même si j'ai déjà rappelé avant, troisième du championnat, donc c'est quand même s'offrir un gros poisson pour l'UFAB s'ils en venaient à éliminer Charnay à domicile. Là il y a un petit
Rolly Bonan qui doit demander le chrono, quelque chose comme ça, je sais pas.
Peut-être
une petite mésentente là.
Ouais, même si le chrono c'est 24 secondes là. Enfin, Charnay qui avait le choix de après ce temps mort reprendre la balle en zone défensive et pas en zone offensive, sûrement pour essayer de sécuriser cette remise en jeu et avoir du temps, voilà, avec là, les intérieurs qui sont partis.
Allez, grosse pression là, il faut mettre une grosse pression défensive.
Mise en jeu, balle dans l'aile à gauche, ça joue le système tête annoncé par la
par Makani là, c'est elle qui me fait peur moi, c'est elle qui est complètement
feu sur ce
quatrième
là. Carton, ouais, ah, allez,
là elle est posée, elle reste au large à 3 points, deuxième écran, va pas falloir lui laisser d'espace.
Attention.
Et la faute.
Ah, non, marché de départ.
Ah ça c'est bon ça. Et ça c'est bon pour l'UFAB.
28 secondes,
l'UFAB peut revenir.
Est-ce que à ce moment-là, tu attends la fin des 24 pour tenter 3 points ?
Non, je pense justement
après
de prendre le plus vite possible
pour après
pour
voilà,
potentiellement avoir à nouveau
une nouvelle chance après derrière. Et je pense que c'est ce qu'elle va faire là.
Oui, elle attend mort.
Essayer de mettre un système en place pour éventuellement essayer d'aller chercher un panier rapide et revenir à hauteur. Du coup, ça ferait que si elles arrivent, alors soit elles mettent un 3 points, c'est magnifique, et reprennent un plus 1 sur du coup la double confrontation, soit elles mettent un 2 points, elles égalisent. Mais en tout cas, il y a tout à jouer, messieurs, sur cette fin de match-là.
Voilà, c'est clair que
c'est
tout
très,
peut se passer.
Très tendu.
Et de ce que je regardais, du coup, tout à l'heure, on parlait, donc c'était soit Basketland, on disait, qui, elles, ont affronté l'ASVEL.
Ouais.
Et l'ASVEL, du coup, qui est menée, entre guillemets, en ce moment, par Dominique Malonga, qui a du coup été drafté la numéro 2 WNBA. Donc il y a aussi...
Et pour le coup, il n'y a qu'un seul point d'écart entre Basketland et et Lyon. C'est vrai que ces matchs amicaux, ces matchs aller-retour plutôt, ils ont rien d'amicaux évidemment, sur des playoffs. Je trouve ça assez particulier parce que
c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir.
Ouais. Et puis j'ai l'impression que la victoire veut rien dire. Bon, on le voit évidemment là aujourd'hui avec l'UFAB. Mais en fait, c'est vraiment en fait un match de 80 minutes finalement.
Ouais, c'est ça.
Cholet peut en parler.
Et donc c'est voilà, ouais. Non, mais c'est assez particulier. Et c'est inhabituel, surtout dans le basket où on voit au meilleur des trois matchs. Et on rappelle justement que le format donc au meilleur des trois matchs, je crois, sera appliqué en finale. Ouais. Sur la demi, ce sera encore une fois la même formule aller-retour. Et sur la finale, ce sera différent. Bon là, le jeu a repris.
Allez.
Donc 60-47. On est à plus de davantage pour Charnay. Anna à la main.
Allez, gère le chrono. Okay, il reste 18 secondes. Rapide.
Marine Dursus qui est rentrée aussi, peut-être pour prendre un 3 points, une fulgurance.
Attention, allez, ça défend 12 très, secondes, très bien.
10 secondes, ça défend très bien, effectivement.
Anna qui va au bout.
Allez.
Ah, ça rentre pas.
Ah non, c'est terrible. Il faut faire faute.
Il reste 4 secondes.
Deux. Non.
Non, il fait faute, je crois.
Là, 4 secondes. 4 secondes 2.
C'est bien. Si la faute est faite rapidement, c'est ce qu'il fallait. On peut espérer maintenant 1 sur 2, en plus sur une intérieure.
La faute a été commise? Ah oui, main sur la tête.
Elle a été sifflée ou pas? Non,
c'est pas cette faute-là. Pour moi, c'est faute des Angevines après sur.
Exactement, ouais. Ouais, sur,
ah ouais,
sur
elle
Thomas.
A pas été sifflée, ok.
Ah, il siffle faute sur l'intérieur de Charnay qui va donc, du coup avoir deux lancers.
Aïe, aïe, aïe.
4 secondes de la fin.
C'est là où ça pue.
Bref, surprenant, mais elles ont très bien défendu Charnay,
ah oui, sur la,
parce que c'était très compliqué.
On a vu
vraiment Alston qui s'est retrouvé du coup balle en main. Elle avait arrêté son dribble derrière. Compliqué de trouver des solutions parce qu'elle commençait à se faire trapper. Il y a, comme on l'a dit, Anna qui a essayé d'aller au panier. Bah, malheureusement, elle y va. Elle a son drive, mais bon, elle le met pas dedans.
Pas la finition. Ouais. On espère maintenant un 1 sur 2. Ah. Je suis pas sûr qu'il reste de temps mort
pour Jabi Tabi. Qui vient de marquer donc son panier. Et le deuxième qui rentre. Et là, c'est mission impossible.
Surtout pas faire de
faute pour l'UFAB. Attention, peut-être à 3 points, Anna. Au buzzer beater, c'est rentré. Mais malheureusement.
Non, c'est maintenant que tu le mets. Mais...
Et non. Et ouais. C'est
horrible.
C'est terrible.
Ouais. Oh, c'est terrible.
Même la salle ne sait pas comment réagir après ce 3 points.
Mesdames et messieurs,
l'UFAB est éliminé.
Est éliminé à pour 1 point seulement. Score final 62-50. Le match aller, ça avait terminé donc en 68-57. Et je vous parlais du match aller où justement l'UFAB avait les moyens mettre un plus 15, un plus 17, un plus 18. Et au final, Charnay est revenu à plus 11. Et aujourd'hui, victoire de Charnay 62-50 qui va aussi rejoindre pour la première fois les demi-finales, je pense, de leur histoire. Et l'UFAB, voilà, que déception, on voit les joueuses qui sont vraiment abattues, on peut les comprendre.
Ouais.
Donc ouais. Voilà, c'est coup dur.
Franchement, bah ouais, c'est horrible. Pour commencer l'émission, ça fait mal.
Personnellement, ma semaine sportive, elle est chaotique. Elle est vraiment chaotique.
Ah, puis ça donnait vraiment pas cette impression.
T'as regardé les deux matchs
De quoi? Bah oui, évidemment, c'est pour ça que je dis que ma semaine est...
Ouais, je sais pas, peut-être t'aurais pu ne pas les regarder.
Ouais, je sais pas si j'en verrai d'autres par contre, mais c'est un autre débat.
Bon bah sur ce, on
va il faut enchaîner. C'est pas facile, mais il faut enchaîner. Ouais.
Enchaîner avec des meilleures nouvelles et bon allez, j'aurais fait le AB, mais j'ai commencé par des meilleures nouvelles avec Cholet,
oui, voilà.
Qui a gagné contre Saint-Quentin sur le score de 77-71. Voilà, quelle journée de la fin de la saison. Cholet se trouve à la 4e place de Betclic Elite avec seulement une victoire de retard sur Paris et l'ASVEL. Il y aura donc un match charnière dans 2 semaines contre l'ASVEL pour aller chercher le podium et se mettre dans les meilleures positions pour entamer les playoffs. Et du côté de l'EAB, donc, il y a eu une défaite 89-76 contre Besançon. Une défaite qui fait descendre le club à la 4e place, mais avec un match de retard. Ce match se joue ce soir à 20h contre Berck. J'ai pas le score là, mais du coup le match a commencé. Ensuite, enchaîné avec une autre bonne nouvelle, le SCO Hand qui a gagné 28-24 contre Massy. Et Alex, tu nous disais tout à l'heure qu'ils sont sûrs de rester en Pro League. A priori.
C'est pour l'instant, en gros, c'était les informations qui ont été publiées par Ouest France ce week-end. C'est que, effectivement, pour l'instant, il n'y aurait pas de club de National 1 qui voudrait monter en Pro League, donc la deuxième division française. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, c'est une situation dont est habitué le club angevin, puisque l'année dernière, on rappelle qu'ils ont également été sauvés grâce à ces problématiques-là. puisque le, c'est vrai que le hand à ce niveau-là, au niveau de la deuxième, troisième division, est assez précaire. On a eu encore eu trois ou quatre clubs qui ont été sanctionnés à cause de raisons financières. Je pense que là, c'est clairement honorifique, vu que l'information a été non publiée, c'est que je pense que les joueurs sont un petit peu au courant. Donc là, clairement, en gros, le challenge, ça va être d'aller accrocher donc les prochains adversaires. Il y a Cherbourg dans quelques jours, mais d'aller symboliquement, là, c'est pour le moment symbolique, d'aller chercher son maintien sportif et de dépasser du coup Massy qu'on vient de battre. Il va falloir gagner deux matchs de plus que Massy, puisqu'il y a 4 points d'écart entre les deux. Et en cas de victoire potentiellement, donc le SCO passerait devant. Voilà, c'est assez compliqué. C'est une fin de saison assez particulière. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la gestion de la ligue par rapport à cet échelon-là, c'est-à-dire les clubs de deuxième division. Moi, je trouve pas ça très normal qu'on ait aucun club de National 1 qui arrive à monter.
Plusieurs années en plus.
Oui, c'est ça, depuis plusieurs années, qu'on ait aussi des clubs qui n'ont pas les moyens, qui sportivement encaissent beaucoup de points à cause de sanctions financières, alors que sur le terrain, ils font le taf. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est assez dommage à ce niveau-là. Mais voilà, en fait, ce qui est dommage, c'est que ça, je crois qu'on en a déjà parlé il y a un ou deux ans, que ça biaise totalement le côté sportif. En fait,
bah oui,
la Ligue n'a aucun intérêt si tu n'as pas de descente et si, en fait, ton classement est perturbé par, encore une fois, 3 à 4 équipes qui perdent 1, 2, 3 points à cause de raisons financières. Donc c'est assez dommage. Et bah écoute, on va voir si Angers peut aller la chercher symboliquement. Et surtout après, voilà, encore une fois, comme chaque année, se concentrer sur l'année prochaine. Et on verra ce qu'on est capable de faire.
Voilà, en tout cas, continuer, on va dire, l'année prochaine sur les bases de cette fin de saison qui est bien meilleure.
Fin de saison, pas sur la saison entière. Parce
ouais,
que,
voilà,
bon, voilà.
Début de saison avec Angers a mis je ne sais pas combien de matchs avant de décrocher ne serait-ce qu'un point.
Exactement.
Voilà. Maintenant, le SCO Rugby, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, qui joue son 32e de finale aller de Fédéral 3 dimanche à 15h contre Cannes. Ce sera à Cannes. Et voilà, je vous redirai dans les prochaines émissions pour le match retour. Et maintenant, la grosse actualité locale aussi, c'est le SCO Foot qui a perdu 2-1 contre Nice, une équipe du SCO qui a à nouveau été dominée. Le seul point positif, j'ai envie de dire, c'est ce but, car sur les 10 dernières défaites du SCO en Ligue 1, il n'y a pas eu un seul but. Le dernier but lors d'une défaite, c'était contre le PSG le 9 novembre. Donc ça risque d'être compliqué maintenant pour le SCO, avec un calendrier là aussi compliqué et seulement 4 journées de la fin de la saison. Le SCO se retrouve à la 15e position avec seulement 3 points d'avance sur le premier relégable.
Barragiste pour le coup.
Bah, relégable aussi.
Oui, relégable, mais ce que je veux dire, c'est que
relégable.
C'est...
Et barragiste avec
je rappelle en gros que c'est une position de barragiste, c'est le Havre.
Mais il y a Saint-Etienne qui a 27 points aussi, du coup, à 3 points du SCO, qui est relégable.
Oui.
C'est comme ça que
Pardon, mais t'as raison, en plus, j'avais mal vu, pardon, c'est ma faute.
Donc,
pour moi, Saint-Etienne n'a pas gagné ce week-end, c'est pour ça, dans ma tête.
Mais ouais, autour de la table, qu'est-ce qu'on pense de cette fin de saison du SCO? Est-ce qu'on croit au maintien?
Bah là, c'est compliqué, là, parce que là, donc, on reçoit Lille, c'est dimanche prochain. Donc, Lille qui a aussi besoin de points. Pour moi, là, le tournant de la saison, c'est sur le derby contre Nantes,
ouais.
Où non seulement tu peux battre un concurrent direct, mais si Nantes chope des points, parce qu'ils ont aussi un match contre Paris à jouer, j'imagine peu qu'ils gagnent des points, mais s'ils arrivent à choper des points, eux, ils seront à l'abri, peut-être qu'ils lâcheront un peu l'affaire contre Angers, mais il va falloir tout donner, donc ce sera la Beaujoire, ce sera donc le week-end du 4 mai.
Ouais.
Et après, c'est Strasbourg, donc réception Strasbourg, qui paraît qui joue l'Europe, et Lyon, déplacement Lyon sur la dernière journée, où clairement, voilà, il y aura un suspense de dingue pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est très compliqué, mais voilà, pour moi, tout se joue contre Nantes. Pourquoi pas aussi accrocher Strasbourg à domicile, peut-être aussi Lille ce week-end, même si je pense qu'il y a une classe d'écart. Il faut pas lâcher. Maintenant, c'est vrai que je pense que ce qui a fait mal, c'est l'élimination en coupe.
Ouais.
On l'a vu avec plusieurs défaites concédées, je crois 4 ou 5 de suite.
5 défaites de suite après.
Sans marquer, comme tu le disais aussi, Faustin.
3-3 contre Saint-Etienne.
Donc, oui, c'est ça. Et donc, c'est assez tendu. Et on pensait pas d'ailleurs vivre ça. mais on est en plein dedans là, on est en plein dans la survie du club.
Il y a eu les victoires, heureusement qu'il y a eu ces nombreuses victoires face aux concurrents directs dans le milieu de saison, parce que sinon le SCO était en très mauvaise posture pour cette fin de saison. Toi Colin, Paulin, qu'est-ce que tu penses de cette fin de saison du SCO?
Compliqué. Après, c'est vrai que j'ai envie de dire heureusement déjà qu'ils vont chercher la victoire face à Montpellier le week-end dernier. Mm. Ça, c'est important parce que si tu perds ce match, c'est forcément c'est déjà fini limite après. Après là, quand on voit juste rien que le jeu proposé déjà face à Nice. Ouais. Équipe défensive proposée sur le papier, mais en fait là jouer à 5 derrière, ça va devenir compliqué si on veut en fait justement essayer d'aller chercher des points. Ça veut dire que ouais, les matchs là contre Lille, on sait que on part avec des complications et que Lille c'est une équipe bien sûr bien supérieure à nous. Donc il faut réussir à montrer des choses offensivement si on veut chercher rien qu'un point déjà à domicile. Et puis après ouais, on voit à Strasbourg, enfin il y a Nantes, du coup on se déplace à Nantes après, puis après c'est réception de Strasbourg et dernier match contre Lyon. Donc entre guillemets, nos seuls espoirs, ils se résument un petit peu dans ce match face à Nantes à la Beaujoire.
Il faudra se mettre en confiance avant d'aller à la Beaujoire.
Ouais. Donc on verra bien ce qu'ils feront face à Lille.
Et bon, là, le petit avantage, c'est que t'es à domicile sur deux matchs, sur les trois que tu joues face à des équipes entre guillemets européennes. Mais bon, ouais. Il faut que le public aussi réponde présent.
Évidemment.
Donc
c'est compliqué. Voilà, j'ai une question pour toi, Alex. Oui. Dernier match, soit Lyon,
Champions League. Non, tu vas faire
soit,
ça.
Soit Angers en Ligue 2, tu peux faire ça.
Ah putain, ah c'est dur, c'est dur parce que en fait, ce que les gens oublient peut-être, c'est que si Lyon ne va pas en Ligue des Champions, c'est quasiment la mort du club. Ah ouais. Moi, c'est un truc qui me stresse depuis le début de la saison. C'est dur.
Ton cœur balance.
Ah, je sais pas. Non, là, vraiment, c'est ouais. Okay. Joker, je réponds à cette question. Ce sera les deux.
On l'espère évidemment pour Lyon et surtout pour le SCO. Avant de passer aux actualités internationales, je vous propose une petite pause musicale assez courte parce que il reste plus que 20 minutes. Donc voilà, on va s'écouter Je peux pas de Unisature.
Je veux être une star, j'ai plus peur de la mort. Et mon frère non plus, ça c'est grave notre truc. Je lui parle de la retraite, il me dit faut y arriver. Il a les pieds sur terre, et la tête abîmée. On est que de passage, la vie de ma mère. Ouais, j'ai un gars de passage. Maman a peur quand je me dis trucs. Des trucs quand on boit des trucs en plus. Je vive sans ça, je peux pas vivre sans ça. Je bois des trucs trop sales et je fais des flaques. Mes potes imaginaires m'ont dit t'inquiète, ça passera. Je lui ai dit touche pas à ça, sinon après ça te cassera. J'ai l'alcool qui tabasse. Beaucoup de peu sur un tout petit peu de tabac. Ouais. J'pensais pas, mais en vrai c'est pareil sans toi. On faisait du sexe sur le canapé, même si des fois c'était sur la terrasse. Mon putain d'ego voulait la ramener, mais c'est de l'amour qu'au final on créa. Je lui ai dit touche pas à ça. Elle l'a pris, elle l'a cassé en deux. Elle voulait une histoire, un truc joli à raconter avant de regretter de m'avoir rencontré. Vivre sans ça, j'peux pas vivre sans ça. J'bois des trucs trop sales et j'fais des flaques. Mes potes imaginaires m'ont dit t'inquiète ça passera. Je lui ai dit touche pas à ça, sinon après ça te cassera.
C'est parti. Voilà, c'était Je peux pas de Unisature. On va tout de suite passer aux actualités internationales et aux Coupes d'Europe de football. On va démarrer doucement par la Ligue des Champions et la fin des quarts de finale. Je me suis pas mis sous les yeux. Mais du coup, on a eu...
Tu veux que je fasse, Faustin?
Bah, je t'en prie.
Donc pour ces quarts de finale, on avait quelques matchs qui étaient un peu déjà joués d'avance, mais on a eu quand même du suspense un peu sur tous les terrains. Le match qui semblait le plus payé, c'est celui du FC Barcelone, qui avait gagné 4-0 à domicile contre le Borussia Dortmund. Et le Barça s'est fait peur, Faustin, puisque ils ont perdu, donc 3-1 contre Dortmund au Signaling Iduna Park. Et donc voilà, finalement la qualification quand même sereine, relativement sereine du Barça. Autre équipe qui se croyait déjà qualifiée, c'est ni plus ni moins que le Paris Saint-Germain, puisqu'ils avaient gagné à domicile 3-1 en dominant outrageusement l'équipe d'Aston Villa. Et au retour, le PSG, qui avait pourtant inscrit donc 2 buts, s'est fait extrêmement peur en encaissant 3 d'affilée et qui n'était plus qu'à 1 but des prolongations face à Aston Villa, qui a multiplié les occasions. Et Donnarumma s'est employé pour ramener l'équipe du Paris Saint-Germain en demi-finale. Et puis au niveau de Arsenal-Real Madrid, 3-0 à l'aller, on rappelle, pour Arsenal. C'est pareil, ça semblait plié. Il y a eu beaucoup de tensions en avant-match pour essayer de faire monter la mayonnaise. Et finalement, c'est Arsenal qui s'est qualifié en gagnant 2-1 contre le Real Madrid. Donc forcément, pas gros suspense dans cette rencontre. Et puis enfin, ce qui était assez indécis, c'était le Inter-Bayern. Victoire 2-1 à l'aller des Interistes à l'Allianz Arena. Et finalement, l'Inter qui va chercher sa qualif à domicile à Giuseppe Meazza en obtenant le match nul de partout, avec notamment un but de notre Français Benjamin Pavard. Les demi-finales seront les suivantes. On aura mardi prochain Arsenal-Paris Saint-Germain. Le match retour sera au Parc des Princes une semaine plus tard. Et puis pour l'autre demi-finale, on aura le FC Barcelone qui recevra au Montjuïc l'Inter Milan. Et le retour, ce sera donc à Milan. Des demi-finales intéressantes, les gars. Je ne sais pas si vous en pensez.
Parce que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et par les analystes de football. C'était, on a le meilleur carré final depuis plusieurs années en Europe.
Ah, surtout en termes de niveau de jeu.
Voilà, c'est ça.
De jeu prôné. Et c'est des mondes peut-être un peu moins claquants pour... pour Arsenal et l'Inter, mais bon, sinon ça reste du très très beau football.
On a le premier de Liga, on a le premier de Ligue 1, on a le premier de Serie A et on a le deuxième de Première Ligue.
C'est ça.
C'est vrai. Voilà, on a les 4 championnats représentés dans les 4 finalistes. Donc ouais, ça va être des très très beaux quarts de finale. Compliqué de faire une prédiction de qui va passer, qui va être éliminé. Voilà.
Paulin.
Ouais, c'est vrai, c'est assez indécis. En tout cas, ce qui est à noter, à retenir, c'est en fait, les prestations de Paris et du Barça, qui du coup respectivement de leur côté étaient vues en fait comme les deux meilleures équipes d'Europe, parce que le Barça avait pas perdu en 2025 encore. Paris, ils étaient sur une série phénoménale où ils étaient quasiment injouables et imbattables. Et là, quand on a vu comment Aston Villa a pu bousculer ce Paris Saint-Germain là justement sur le début de la deuxième période et sans un grand Donnarumma, tu sais pas vraiment ce qui peut se passer. Ça montre que forcément, que ce soit le Barça ou le PSG, il y a des failles, et que je pense que les deux demi-finales vont nous promettre énormément de spectacles.
Ça va être intéressant. Tu veux qu'on parle de Ligue Europa, Faustin? Je suis obligé ou pas?
Je pense, hein, là, quand même.
Il faut que j'évacue un traumatisme. T'as raison. L'Olympique Lyonnais était le deuxième club français impliqué donc en quart de finale de Coupe européenne. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Je vais vous raconter difficilement donc le scénario de cette rencontre. United gagne rapidement 2-0 après le nul 2-2 à l'aller. Lyon revient du diable Vauvert avec ses buts de Tolisso et de Tagliafico, arrache donc la prolongation. À noter que donc Tolisso prend un carton rouge juste avant cette prolongation. Et là, c'est la délivrance. Cherki qui marque un magnifique but. Lacazette sur penalty, 4-2 pour l'Olympique Lyonnais. Et beaucoup de supporters, moi y compris, croient à ce moment-là que Lyon est en demi-finale. Et en tout cas, ils ont un pied et 4 orteils dans le dernier carré. Malheureusement, la fin ne s'est pas passée comme prévu. Premier penalty provoqué par Casimiro, transformé par Bruno Fernandes. On est à la 114e minute de jeu, 4-3. À la 120e, but de Kobbie Mainoo, 4 partout. bon, bah là, on est déjà un peu au fond du trou, mais à ce moment-là,
il reste les pénalties,
ça va, ça peut se faire, c'est la loterie, comme on dit. Sauf que là, 121e minute dans le temps additionnel, Harry Maguire crucifie les Lyonnais. Qualification de Manchester United et Lyon ne verra pas ce dernier carré de Ligue Europa. C'est compliqué. C'est un vrai traumatisme, voilà. Ça fait aujourd'hui, je pense, une quinzaine d'années que je suis le football. Je n'ai jamais vu ça.
Terrible.
Je n'ai jamais vécu ça en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc c'était horrible. Je pense que Mathéo aussi comprend ma douleur. Je sais pas si toi, Paulin, t'es pour quelle équipe ?
Pour le Barça. Donc je t'avoue que j'ai regardé ce match plutôt en étant
neutre,
en regardant juste un match de football assez hallucinant en fait.
Donc,
à vivre.
Voilà. Évidemment, pour ceux qui étaient extérieurs, ils ont dû kiffer.
Ah bah.
Les Stéphanois et les Marseillais ont dû encore plus kiffer. Ils étaient pour United. Non, voilà, c'est un scénario horrible, cruel, mauvaise gestion aussi émotionnelle des Lyonnais, qui célèbrent énormément après le 4-2. C'était une désillusion énorme. Donc voilà, je ne veux pas non plus trop revenir là-dessus. À noter que les trois autres qualifiés pour la demi-finale, c'est l'Athletic Bilbao qui donc recevra notamment la finale. Et il y a également Tottenham et le Bodo Glimt qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa.
Bravo d'avoir réussi à en parler.
Ouais, la gorge nouée, mais j'en ai parlé. Ouais.
J'imagine. On va pas revenir sur la Ligue 1 de ce week-end, du coup.
Bah, on peut. Rapidement, ouais. Très rapidement.
Ouais, je t'en prie.
Pour résumer, pour les gens qui n'auraient pas suivi donc cette journée de Ligue 1, la bonne opération, elle est pour Marseille qui s'est imposé 5-1 contre Montpellier. Match nul entre Monaco et Strasbourg, 0-0. Ça, c'est pour les résultats principaux. Lille a battu Auxerre et Nice a battu Angers, comme on l'a dit. Et donc, ce sont aussi les bonnes opérations. Le seul club qui truste les places européennes, qui n'a pas gagné de points, c'est ni plus ni moins que l'Olympique Lyonnais. Qui a perdu contre Saint-Etienne au bout d'un match complètement fou. Tout d'abord, un carton rouge qui est déjà un but de Stassin. Stassin qui va commettre une faute assez grossière sur la cheville de Corentin Tolisso. Carton rouge qui est prononcé dans un premier temps. Finalement retiré par la VAR, ce qui est complètement lunaire pour ceux qui ont pu voir les images. J'essaie de faire vite parce qu'après vous avez également d'autres sports à évoquer. Et puis on a cette pièce qui est lancée sur la tête d'un arbitre assistant. Le match est interrompu pendant à peu près 45 minutes et le match va reprendre après que l'arbitre ait pris un petit doliprane. Ça va mieux, on repart et donc avec Stassin sur le terrain qui marquera le deuxième but stéphanois. Lyon va réduire la marque, mais finalement c'est Saint-Etienne qui va s'imposer 2-1, qui fait aussi du coup une bonne opération. On le rappelle, au niveau du classement, ça concerne le SCO. Et par contre, qui s'expose potentiellement à un point de retrait en fonction de ce qui se passe vis-à-vis de l'arbitre qui a été donc visé par les supporters stéphanois. Donc voilà, une énième déception et surtout une grande frustration avec ce carton rouge qui aurait dû être évidemment sifflé, cette grosse erreur.
Le Texier qui a reconnu son erreur en plus. Après
François Le Texier, ouais, qui a reconnu son erreur, mais ça ne changera pas le fait que Tolisso est sorti sur civière et qu'il jouera plus, je pense, jusqu'à la fin de saison et que Lyon a perdu un ou trois points très importants dans la course à l'Europe.
Il n'était pas bon d'être lyonnais cette semaine.
Je confirme. Ni Angevin.
Donc en juin, oui, voilà. Au final.
Bon. Et ça tombe bien, je suis aidé.
Allez. Et on va passer peut-être à des nouvelles plus joyeuses avec le tennis, Paulin.
Ouais, tout à fait. Donc cette semaine en tennis, c'était les tournois de Barcelone et de Munich que l'on a pu suivre, en gardant forcément un œil attentif sur notre Français et la performance d'Arthur Fils, dont on vous avait déjà parlé la semaine dernière suite à son tournoi et sa performance à Monte-Carlo. Donc là, à Barcelone, il a réussi à rallier les demi-finales du tournoi pour obtenir sa revanche à quasi une semaine d'intervalle avec Carlos Alcaraz. Malheureusement, bah, le scénario n'a pas été le même. Là, il s'est clairement fait rattraper par le talent de Carlito. Et en fait, il s'est pas laissé asphyxier, on va dire, Alcaraz par les grandes frappes et ce côté un peu puncher d'Arthur Fils. Donc notre Frenchie, il a tenté de résister, mais il a succombé à la puissance de l'Espagnol et il perd finalement le match en 2-7, 6-2, 6-4. Mais moi, je dirais pas d'inquiétude pour la suite parce que Arthur Fils, il a quand même enchaîné les bonnes performances. Il a fait trois quarts de finale en Masters 1000. Là, il fait demi à Barcelone. Il arrive à Madrid. Il peut toujours essayer de performer à Madrid. Et puis
pour Roland.
Et puis Roland, c'est ça qu'on cherche justement. C'est là, on est sur les tournois en terre battue. On sent que vraiment, il a peut-être des cartes à jouer à Roland. C'est ça qui est intéressant. Et franchement, ça ferait plaisir de voir un Français qui pourrait performer, on va dire, sur la scène de Roland Garros. Derrière, Alcaraz, il rejoint la finale. On s'attend donc à une troisième victoire pour lui à Barcelone sans trop de soucis. Mais il a affronté un Viking. Holger Rune, de retour sur la scène du tennis mondial, avec un niveau fantastique là sur cette semaine à Barcelone. Holger Rune, il y a eu d'abord un duel de Viking face au Norvégien Casper Ruud en quart, il l'a littéralement balayé. Derrière en demi, c'est Khachanov, pareil, franchement fantastique sa façon de jouer. De ce que j'ai pu voir, c'est vraiment, en fait, il a réussi à alterner entre coup droit long de ligne, derrière il gérait le jeu, et sa qualité aux amortis était assez impressionnante. Et ce dimanche, du coup, le combat entre les deux hommes, il a été très rude. Même si là, il n'y avait pas le Norvégien. Ça, c'est une petite blague tennistique.
Bien vu.
Pour tous ceux qui suivent. Et du coup, c'est Rune, en fait, qui a réussi à s'en sortir. La grosse bataille, c'était globalement dans le premier set, qui s'est joué au tie-break. Donc, remporté 7-6 par Rune. Niveau de jeu exceptionnel. Derrière, pépin physique pour Carlos Alcaraz, qui le reconnaît derrière après le match au niveau du pseudo as droit. Donc, deuxième set, totalement maîtrisé par Holger Rune, du coup, qui finit par s'imposer sur les terres espagnoles d'Alcaraz, du coup, à Barcelone. Et côté Munich, c'est Zverev qui s'est aussi imposé, du coup, lui, à domicile, cette fois-ci, en affrontant en finale Ben Shelton. À noter la belle perf de Ben Shelton, du coup, qui est le premier américain à rallier les demi-finales d'un ATP 500 sur terre battue. Donc ça promet aussi un bel avenir pour le tennis américain. Et du coup, Zverev qui s'impose à Munich.
Super, on suivra évidemment les aventures d'Arthur Fils à Madrid, et puis plus tard à Roland-Garros. Évidemment, on va passer l'Atlantique et on va reparler de basket, reparler de play-off, cette fois avec des défaites et des victoires, évidemment.
Ouais, tout à fait. Hein. Moi, ça y est, personnellement, je vis la nuit, là, c'est bon, je dors le jour éventuellement, hein, mais on peut pas toujours, donc en fait, j'ai peu de sommeil, on va dire, parce que les play-offs NBA, ça y est, ça a débuté, ça commence vraiment très très fort. On en discutait avec Faustin, mais déjà ça a commencé samedi, l'ouverture en fait, l'ouverture du bal, c'était les Bucks de Milwaukee face aux Pacers d'Indiana. Victoire d'Indiana, très très bon collectivement, et en face d'un Giannis beaucoup trop seul. À noter la belle performance de Kyle Kuzma, 0 points en 22 minutes, je trouve que ça méritait d'être cité.
0 points, 0 rebond, 0
ouais, rien. Voilà, en 22 minutes. Mais la bonne nouvelle pour les Bucks, c'est que ce soir Damien Lillard fait son retour à la Gainbridge Fieldhouse, donc pour le match 2 qui sera à suivre aux alentours d'une heure si je ne me trompe pas. Donc ça promet, avec le retour de Damien Lillard, au moins Giannis sera un peu moins seul. Après la confrontation qu'a suivi ce match samedi, c'est sûrement une des plus belles séries là que l'on va pouvoir suivre, en tout cas de ce qu'on a pu voir des deux premiers matchs. C'est les Nuggets face aux Clippers. Premier match, les Nuggets s'imposent en prolongation au terme d'un match vraiment exceptionnel à voir. Et là, cette nuit, donc j'ai pu regarder le match, c'était à 4h du matin, et les Clippers se sont imposés avec un Kawhi Leonard qui nous donne des souvenirs de son époque à Toronto en 2019. Ça doit te parler, Faustin, toi étant fan de Toronto.
J'ai vu les flashbacks.
Et franchement, il fait 39 points, 15 sur 19 au tir. Il fait une prestation vraiment exceptionnelle. Et c'est vraiment ça, c'est l'espèce de joueur qu'on a toujours voulu voir, mais malgré, forcément, lui, il a toujours eu des pépins physiques, problèmes de santé. Donc, s'il arrive à tenir ce niveau-là toutes les playoffs, je souhaite bonne chance aux Nuggets déjà de réussir à venir à bout de ces Clippers-là, et après toutes les autres équipes qui viendraient dans le chemin des Clippers. Il y a évidemment d'autres séries, hein. Il y a les Knicks de New York, donc moi ça me pince un peu le cœur du coup en étant supporter de ces Knicks-là qui se sont...
Ça va encore.
Ils ont perdu. Du coup, cette nuit, ils ont gagné le premier match après un magnifique run 21-0 dans le quatrième quart-temps au Madison Square Garden. Et là, cette nuit, j'ai mis le réveil à 1h30 pour voir mon équipe jouer. Mais malheureusement, Détroit aura été plus fort et égalise dans la série, un partout, avec un Cade Cunningham en patron qui a mené son équipe à la victoire. Ouais. Là, il n'y a rien à dire. Et Dennis Schroeder aussi, mention spéciale pour lui.
Pistons qui gagnent leur premier match de play-off depuis 2008.
Ouais, c'est beau, mais ça fait mal.
Deux ans.
C'est contre les Knicks.
C'est vrai que t'avais 2 ans, je suis en train de réaliser. Ouais.
Voilà. Ouais, parce qu'ils ont eu de mémoire 3 apparitions, mais sweep à chaque fois, donc c'est-à-dire 4-0 contre toutes les équipes qu'ils ont pu affronter. Donc ouais, ça fait mal, mais en tout cas bien joué à eux pour leur victoire face aux Knicks. Direction le Michigan, le game 3 sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, derrière on a toutes les grosses équipes, on va dire, qu'on attend, donc notamment OKC, Toi, je sais que Faustin, t'as vu le match, gifle énorme.
À la West.
Énorme, infligé à Memphis.
Comme on voit rarement, 51 points d'écart à la fin.
131-80 à la fin du match. Je sais pas où sont les Grizzlies de Memphis. C'était plus des chats.
Là, j'ai l'impression. T'as dit qu'ils ne joueront plus jamais aussi mal.
Réponse cette nuit, hein. Parce qu'il joue le game 2.
50 points d'écart à tous les matchs, on va un peu s'ennuyer.
Exactement. Boston qui fait le taf, les champions en titre qui battent Orlando assez facilement. Bon, facilement non, parce que c'était plutôt serré en première mi-temps, mais en tout cas, ils ont géré leur fin de match. Cleveland, pareil, fait le travail contre Miami en s'imposant là plutôt facilement, j'ai envie de dire. Et il nous reste deux rencontres dont on n'a pas encore parlé, c'est les Lakers qui jouaient face aux Wolves de Minnesota. Assez gros match, on va dire, et belle série que tout le monde attendait. Par contre, les Anges de Los Angeles, si on peut les appeler comme ça, se sont fait manger par les Loups. Parce que il y a pas eu match. Luka Doncic trop seul et forcément là il y a une réaction immédiate obligatoire cette nuit. C'est à 4h Lakers contre Timberwolves, parce que si les Lakers perdent ce match, ils seront à 0-2 dans la série. On repart à Minnesota du coup derrière et faut aller les gagner les matchs là-bas, donc compliqué. Et
l'avantage du terrain est déjà perdu du coup.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont plus le droit à l'erreur. Et enfin, on termine par l'équipe de Batman et Robin, comme ils aiment se faire entendre en ce moment. C'est les Warriors de Golden State face aux Houston Rockets. C'est Jimmy Butler qui a développé une affection pour ce surnom, se désignant lui-même comme le Robin et Steph Curry son Batman, avec un Steph Curry assez exceptionnel dans la réussite au tir et des shoots à 3 points qui nous rappelle un peu ce qu'il nous a fait au JO. Hein, je pense que ça doit vous parler les gars en finale.
Oui.
Ces shoots assez horribles qui nous
souvenir. C'est une sacrée émission là en termes de souvenirs de mauvaises choses.
Que des flashbacks qui
reviennent. Qui font mal.
Super cool.
Qui font mal, mais du coup victoire des Warriors sur le terrain des Rockets, avec on sent vraiment une équipe expérimentée côté Warriors face à ces jeunes Rockets, et on va voir ce que toutes ces playoffs vont pouvoir nous livrer.
Ouais, voilà, moi j'aimerais dire un mot peut-être sur Lakers Timberwolves, où j'ai été surpris de la différence physique entre les deux équipes là. À quel point les Lakers ont été dominés. Et puis il faut surtout mentionner aussi l'adresse à 3 points des Wolves qui a été magistrale, exceptionnelle, et ce sera peut-être pas comme ça à tous les matchs. Comme on l'a dit tout à l'heure avec le Fab, il y a des matchs où ça tombe dedans et des matchs où tu passes à côté, et là clairement les Wolves étaient dedans. Voilà pour cette émission, rien de plus à ajouter messieurs. On va pouvoir se quitter, on va se laisser avec le générique, puis l'émission Un autre regard qui arrive juste après. Voilà, bonne soirée.